Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal.
Bon. Alors, bonjour tout le monde. Nous nous installons tranquillement. Aujourd'hui, il s'agit... d'un panel ou d'une table ronde ou d'une chaise en demi-cercle pour parler du zine, du rapport entre le zine et le livre. Nous allons en profiter pour parler de ces pratiques de création qui arrivent maintenant à la reconnaissance. C'est un peu l'année officielle pour le Salon du Livre puisqu'il y a vraiment un espace zine cette année au Salon du Livre et donc c'est l'occasion pour nous d'un peu d'entamer cette conversation-là de ces œuvres de création qui ont un peu surgi. On a l'impression qu'elles viennent de surgir, mais en fait, c'est une pratique très longue. Alors, je vous accueille aujourd'hui. Je vais quand même vous présenter un peu. Il y a d'abord Hélène Buguin. Je vais lire la vie. Après une maîtrise en littérature à l'Université de Montréal, Hélène Buguin est maintenant corporate. J'ai appris ça en lisant la bio. On passait de l'autre côté, hein. Il y a la coordonnée plusieurs spectacles littéraires et publié des textes dans différentes revues, mais aussi des zines et ce livre de poésie ici apporté. Voilà, merci. Enfin, une morsure. Ensuite, tout de suite après, à ma gauche, il y a Sarah Hébert. Sarah Hébert est née à Laval en 1984. Elle a cofondé les plateformes éditoriales féministes Filles, Missiles et Caresses Magiques. Elle s'ouvre le cœur à coups de zine et d'émissions de radio depuis 2010. Elle a fait paraître son premier livre « Solo bijoux de banlieue, marchand de feuilles » en 2022. Et elle a aussi dirigé et illustré « Douleur sentimentale », qui est un livre...
Puante.
J'ai raté le mot le plus important.
Ça va, mais c'est un mot dégoûtant, en fait, c'était comme...
Oui. Mais c'est intéressant, on va en parler parce que c'est un livre, mais c'est un livre en fait qui brise un peu tous les codes du livre très traditionnel. Et un recueil de textes sur la jalousie.
C'est ça.
C'est celui-là, c'est le même livre. Bon, somme toute en 2019. Ensuite, Céline Huygbert. Céline Huygbert développe une œuvre plurielle à la croisée du livre et de l'installation. En utilisant le texte comme médium principal, son travail a été diffusé dans le cadre d'expositions collectives et individuelles, de résidences de création et d'événements au Canada, Belgique et France. Et elle est l'autrice du récit Le Drap Blanc, 2019, d'abord livre d'art et ensuite publié chez Le Quaternier, et la réalisatrice d'une dizaine de micro-publications. On va peut-être revenir sur ce terme-là, de micro-publication que tu utilises. Et elle a obtenu plusieurs reconnaissances, dont le prix littéraire du gouverneur général en 2019. Et tu vis à Montréal.
Oui. Voilà.
Alors moi, mon intérêt pour le zine est arrivé un peu tard. Je suis Stéphane Martelly, autrice et professeure en littérature, et donc on va s'arrêter là. Mais mon dernier livre est en fait une publication autonome. Je cherche encore le terme, comment le qualifier. Je ne suis pas certaine, en fait. Je l'appelle livre d'art pour l'instant. On va voir, peut-être ça va changer au fil du temps. Alors, la première question que j'avais pour vous, c'est un peu la question qui m'a provoquée, en fait, à franchir ce pas-là, puisque je travaille dans le milieu de la poésie et puis même de l'édition, mais pourtant, j'ai eu le besoin de franchir ce pas-là pour faire ce livre-là. Et là, j'ai la même question pour vous. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas? Quelle est l'œuvre qui vous a conduit au zine et pourquoi vous avez choisi ce médium-là?
C'est vraiment une bonne et grande question pour commencer. C'est vrai qu'un zine en particulier, parce que c'est ça, en fait, l'impulsion que j'ai eue, c'est penser au premier zine que j'ai fait. Mais c'est vrai que... Parce qu'en fait, le zine, pour moi, au début, c'est juste un amalgame de plusieurs choses. Fait que c'est aller à ExpoZine, c'est voir les possibilités. Fait qu'un zine en particulier, bien, peut-être ce que je sais de moi, de Shushana Bikini London, que, en fait, ça, c'est le possible du zine, pour moi, vraiment dans son essence, parce que c'est littéralement un minuscule format. Le titre dit tout, puis elle se livre avec authenticité dedans. Donc, pour moi, ce serait la porte d'entrée, mais aussi toutes ces zines-là qui sortent de la forme, là, beaucoup. Là.
Oui, il y a certainement quelque chose au niveau de la forme qui se passe, mais en fait, ça peut être dans les deux sens. C'est qu'est-ce qui a provoqué ce mouvement ou qu'est-ce qu'il n'y avait pas et qui vous a obligé à faire ce mouvement?
Vas-y, c'est bien. Ben, je ne sais pas si ça n'existait pas. En tout cas, c'est sûr que moi, je sais que j'étudiais en études littéraires à l'UQAM. Ce qu'on étudiait, c'était des formats vraiment très, très traditionnels avec les genres, le roman, la poésie, le théâtre. Il y avait peu d'hybridité. Moi, en tout cas, j'ai eu l'impression que pour travailler avec cette hybridité, inclure l'image, travailler avec aussi une matérialité, des techniques, la sérigraphie, etc., il fallait que je sorte du milieu littéraire et que j'aille vers des espaces plus alternatifs. Donc aujourd'hui, on le voit quand même, il y a beaucoup de petites maisons d'édition qui travaillent le livre comme vraiment comme médium et non plus seulement comme support. Mais j'ai l'impression que c'est con, mais il y a 15 ans, c'était très alternatif encore et en tout cas, c'était pas rentré à l'université.
Non, certainement pas. Et aussi. On avait toujours un peu... C'est comme s'il y avait eu ce mouvement dans l'histoire du livre où le livre avait fini par ramasser toutes les formes déjà diverses qui existaient parce qu'on rentrait dans la production de masse, rentrait dans des formats de plus en plus contrôlés. Et puis là, on a un mouvement, en fait, qui nous permet de sortir un peu de ces formats. Peut-être dans ton cas, je sais que tu t'es rapproché des arts visuels pour prendre un peu l'air... par rapport à ce qui existait, mais Sarah peut-être veut...
Moi aussi, c'est comme Hélène, en fait, c'est Exposine, qui est un... Pour les gens, tout le monde connaît Exposine ici ou pas, c'est comme un salon du livre, mais underground pour la micro-édition, les livres faits par des gens DIY. Donc, ça a lieu les 2 et 3 décembre, la prochaine édition. Normalement, le zine est comme confiné à cet espace-là. Fait qu'il y a 300 exposants qui apportent leurs propres livres, qui ont fait eux-mêmes, imprimé eux-mêmes, découpé, agrafé. Puis, c'est une communauté de personnes, normalement des artistes ou des gens qui sont politisés. C'est relié à l'underground puis aussi à l'art visuel. Ça mêle un peu de tout. Donc, c'est une occasion pour rencontrer des gens qui sont comme nous, qui ont peut-être aussi des intérêts similaires à nous. Puis, il y a une grande liberté de penser dans le zine. Donc, on fait ça nous-mêmes. Il n'y a personne qui va l'éditer. On le publie avec nos propres moyens. Donc, c'est là qu'on retrouve, je trouve, des voix de plus diversifiées sur lesquelles il n'y a pas plein de personnes qui ont passé. Mais pour répondre à ta question, moi aussi, c'est un peu comme Céline. Je faisais une maîtrise en études hispaniques, puis j'étais plongée dans des journaux savants du 18e siècle, puis en espagnol, puis personne. Je ne pouvais pas parler de ce que je faisais avec personne. Puis c'est très... à l'université, t'es 6 dans un séminaire, puis tout le monde a l'air super pédant, puis c'est dur de prendre la parole quand tu viens pas d'un milieu comme ça. Fait que c'est pendant que je faisais ma maîtrise que je suis allée à Exposine, puis là, j'étais comme « Wow! » Je suis tombée sur un zine de rupture, puis j'ai eu envie de pleurer, puis c'était 6 pages avec des petits dessins, puis j'étais comme « Ah! J'ai envie de faire ça! » Puis ça a été ça, le départ pour moi, d'aller à Exposine, de voir, je savais pas que ça existait. Ouais. Dès que j'ai découvert ça, j'étais comme « Je veux participer! »
Oui, c'est vraiment formidable. Moi, j'ai pas tant fréquenté que ça Exposine. J'ai vraiment, en fait, ce qui m'a conduit à faire ce livre-là, c'est vraiment tout un parcours d'écriture et puis d'intérêt aussi pour les marginalités et puis d'intérêt pour trouver des formes très singulières. Et donc moi, ce qui m'a conduit, si vous voulez, à faire ce livre-là, c'est vraiment le sentiment d'impossibilité que j'avais par ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'espace où ce que j'envisageais, je pouvais le projeter. Et donc, moi, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Après, ça a pris des dimensions formelles assez compliquées, mais l'impulsion de départ, c'était vraiment cela.
Peut-être, oui, pour faire le lien avec Exposine, quand tu disais qu'à Exposine, effectivement, le fanzine, c'est de la BD, c'est de la poésie, c'est des pamphlets engagés, c'est des livres avec des formes bizarroïdes faits par des artistes en art visuel. Puis en fait, quand on est dans l'édition alternative, on n'a pas à se poser la question de ce qu'on fait. On n'a pas à se demander si ce qu'on fait, c'est de la BD, donc contacter une maison d'édition en bande dessinée ou contacter une maison d'édition en poésie, où on le fait et ensuite, ben, on se débrouille pour le produire et ensuite, on se débrouille pour le distribuer. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi, le fait qu'on n'a même pas à se demander est-ce que ça existe.
On n'a pas le nommé vraiment. Oui, c'est un peu pour s'échapper finalement des catégories à un certain niveau. Et ça, je trouve qu'on le retrouve même jusque dans la forme. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question qui se pose au moment de l'édition, mais ce que ça permet formellement que de ne plus avoir à négocier avec des catégories prédéfinies à l'œuvre.
À ce niveau-là, je pensais à la définition d'usine en soi, parce que c'est dans mon émission de radio sur le zine, c'est une question qui revient souvent. On parle de livres d'artistes, on parle de graphzine. Donc, c'est quoi un zine? Puis à chaque fois que j'essaie de dire, d'affirmer ou d'avoir une négation, c'est comme, ah, le livre, mettons, le zine, c'est littéraire. Mais non, il y a des livres littéraires. Le zine, c'est petit. Mais non, il y a des petits livres. C'est grand. Mais non, il y a des grands livres. Là où peut-être ça coince, c'est dans la commercialisation par rapport à l'aspect formel.
Oui, tout à fait.
Parce qu'en fait, le zine, c'est beaucoup des choses, en fait, qui ne se commercialisent pas à grande échelle, qui ne peuvent pas nécessairement se retrouver dans des distributeurs. Par exemple, une installation, ça ne peut pas se retrouver dans un distributeur si on prend, par exemple, Bijoux de banlieue, ça a été commercialisé finalement, mais il y a eu un travail d'édition, il y a eu une réflexion autre.
C'était pensé comme un livre, c'était pas pensé comme un zine non plus. Parce
oui,
que un zine,
ça.
Pour moi, ça n'a pas 352 pages.
Non, c'est ça.
C'est fait dans l'urgence, c'est fait. Pour moi, un zine aussi, c'est j'ai une idée rapide. Je peux la faire en 48 heures, je peux la faire toute seule, ça va vite. Moi, je suis quand même impulsive comme. Dans la création, fait que c'est pour moi le zine, c'est la possibilité de sortir quelque chose de moi rapidement,
oui.
Puis de l'offrir aux autres rapidement.
Oui, oui.
C'est pas à tout le monde que ça s'adresse non plus. Je pense que quand tu découvres le zine dans Exposine, c'est à ma communauté que je pense. Comme là, pour moi, c'est drôle d'apporter des zines au Salon du livre.
Oui.
Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, je pense. J'avais en tête, en fait, que c'était peut-être pas pour monsieur, madame, tout le monde, mes zines, mais finalement, mon livre a été bien accueilli.
On sous-estime tellement monsieur et
madame. Je sais, mais qui sont-ils?
Qui sont-ils, ces gens-là?
Mais plus que les zines se démocratisent, en fait, c'est ça qu'on remarque, qu'on sous-estime la réception des autres par rapport à... Bien, en fait, c'est beaucoup de l'expérimentation, les zines, c'est
oui,
ce qui revient.
Oui, l'expérimentation,
beaucoup,
mais je pense qu'il y a aussi une lecture qui vient probablement du milieu littéraire. Lui-même, parce que moi, quand j'ai essayé très scolairement de chercher les définitions accrochées aux zines, c'était toujours des affaires de diffusion limitée, tirage amateur, artisanal, presque une sous-catégorie, en fait, avec des termes assez négatifs, finalement. Y a vraiment une espèce de... Ben, c'est sûr qu'on en sort maintenant, mais il y a quand même eu, pendant longtemps, cette espèce de penser que le zine appartenait peut-être à une sous-catégorie de la littérature et voilà, puisqu'il échappait au mécanisme de vérification de l'édition.
Et je pense
sans voir que le zine, en fait, questionnait ces mécanismes aussi.
Oui, c'est ça, mais ça émerge des sous-cultures. Fait que c'est normal, c'est fait en parallèle du monde institutionnel. Fait que c'est normal qu'on en parle de cette façon-là. Puis moi, je pense qu'il va y avoir des zines super... Parce qu'il y a des gens qui étudient... Justement, il y a des étudiants, il y a des gens académiques qui font des zines. Fait que leur zine va peut-être avoir une forme où les propos, ça va être super révisé, il n'y aura pas de faute. Mais il existe aussi beaucoup de zines où... on s'en fout des fautes dans ton zine. Genre, ton propos, il est là, tes idées sont là. C'est... Moi, je le vois comme une lettre à un ami, une amie. Pour moi, c'est quelque chose de la correspondance. Puis il y a quelque chose de soi dans le zine qui n'est pas là dans un livre normal. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, à un certain point. Puis ben, au sens, ça ne peut pas être aussi vrai que si on pense à un grand lectorat, que si on a une porte et autre, que justement l'aspect de la conversation de « Ah, ben je fais ce zine-là pour avoir la conversation avec la personne qui le prend puis qui décide de s'investir puis ça va résonner en elle. » Puis ben ça libère un peu, en fait, de cette impulsion-là. Puis,
ou peut-être on n'a pas trouvé la bonne terminologie parce que là, depuis tout à l'heure, on parle en fait d'une très grande variété de publications.
Oui.
Je sais pas. Moi, j'utilise plutôt micro-publication, peut-être parce que je milite aussi beaucoup pour la valorisation de ces publications-là. Je trouve que on a parfois aussi tendance à penser que les auteurs ou les autrices vont vers l'usine parce que ils ont pas assez de talent ou parce qu'ils ont pas trouvé une maison d'édition, et c'est pas le cas. C'est parce que c'est vraiment un espace de liberté à explorer. Et je sais pas, je trouve que en parlant de micro-publication, j'insiste aussi sur le côté professionnel de la pratique. Je sais que vous faites du zine et vous publiez aussi dans une maison d'édition. Donc quand vous faites du zine, c'est par choix, c'est pas par dépit.
Oui, en fait, nous avons toutes un pied dans une ou des maisons et un pied à l'intérieur des publications que nous assumons. En fait, quand on fait le tour de la salle. Mais moi, j'aimerais parler aussi de tout ce que ça provoque du point de vue de la forme, que d'avoir cette liberté soudaine, de ne pas avoir à s'imaginer dans des contraintes déjà définies, même que ces contraintes peuvent être très larges. Il y a des maisons d'édition qui font toutes sortes d'œuvres expérimentales, qui jouent avec les codes, qui jouent avec les genres, dans tous les sens du mot genre, qui jouent avec plein de formats possibles. Mais qu'est-ce que ça fait du point de vue de la forme quand soudain, cette forme n'est pas tellement complètement décidée à l'avance? On pourrait peut-être formuler ça comme ça.
Mais je ne sais pas si quelqu'un... non, OK. Mais la question de la forme dans le zine est très intéressante parce qu'il y en a qui partent que de la forme, en fait, pour penser le zine. Par exemple, Ève Landry, qui a fait un zine qui s'appelle Hybride, qui est dans un pot de SQDC. Puis, donc, le titre est en lien avec la forme en tant que telle, le contenant, les poèmes sont en lien avec le contenant. Fait qu'il y a toute cette pensée-là de la forme avant le texte. Puis, il y a aussi une espèce de matérialité. Il y en a justement qui me
oui.
disent beaucoup...
Absolument, oui.
Ah, je pense au papier, je pense à la sérigraphie,
oui,
qui apprennent
sûr.
À faire de la reliure. Puis, dans ce qu'on parlait juste avant, je pensais à Neugachette, par exemple,
oui.
qui s'apprennent à faire de la riso, qui s'apprennent à faire de A à Z aussi. Puis, en plus, ils vont chercher des textes de personnes travailleuses du sexe. Ils vont chercher des textes féministes, puis autres. Donc, c'est vraiment de se dire, on va se donner les moyens dans la forme pour pouvoir, en fait, transmettre ce texte là qui peut pas nécessairement rayonner par les maisons d'édition traditionnelles. Puis ça peut être correct aussi parce que justement on n'a pas à répondre d'un distributeur ou d'un catalogue là.
Oui, en fait c'est les deux questions sont liées. En fait, l'autre question que j'avais envie de vous poser, c'est le côté justement artisanal de la fabrication, qui est quand même un bonheur retrouvé. Il faut être honnête, hein? C'est un peu la chose qui nous échappait en tant qu'autrice ou en tant qu'écrivaine, qui nous échappait un peu parce qu'elle n'était plus entre les mains des auteurs depuis longtemps. Elle appartenait vraiment à une grande discussion impliquant éditeurs, imprimeurs, artisans. Mais là, c'est une discussion qui revient aussi à l'activité même d'écriture, à l'activité même de création.
Je me dis, si jamais, coupez-moi. Là, si
oui, non.
Mais c'est parce que oui, c'est ça. Je rencontre beaucoup de personnes ces temps-ci qui parlent de ces différents aspects-là. Donc, je pourrais citer en fait un peu leur pratique. Mais il y a Jimmy Beaulieu qui a... il appelle ça une maison d'édition, mais de zine. Et encore une fois, c'est comme il y a plein de petits détails qu'à chaque définition, il y a des contradictions. Donc,
oui.
Et un zine, c'est pas dans une maison d'édition, mais il y a une maison d'édition.
Si c'est un objet auto-édité, auto-publié, oui. Ben ça peut être un zine.
C'est ça.
C'est comme ça que je le pense. Oui. Puis après, il y a différentes écoles. Tu sais, on se connaît, ça fait longtemps. Mais moi, je pense que le zine, pour moi, n'existe pas en dehors d'Exposine. Parce que.
Oui, c'est possible, oui.
Si je fais un zine puis qu'il n'y a pas Exposine, je vais aller porter 8 copies dans 3 librairies à Montréal. Je vais faire 2 piastres par copie. Il va falloir que j'aille chercher mes consignes. C'est n'importe quoi. Tant qu'à ça, je vais faire 10 copies puis je vais les envoyer à 10 personnes que j'aime. Ou je vais faire une série de posts Instagram, je vais le mettre en ligne. T'sais, s'il n'y a pas Exposine, moi, mes zines n'existent pas vraiment.
Parce que c'est vraiment relié à ce contexte.
Ben oui,
je pense qu'on parle en fait de réalités complémentaires et qui ont chacune leur fonction et puis leur espace qui leur donne finalement la forme. Parce que d'usine, je suis d'accord que le zine, je n'ai pas l'impression de faire d'usine, en fait. Non, c'est ça l'aveu.
Peut-être que tu fais de l'auto-édition, mais l'objet peut-être
Non,
c'est un livre que tu as conçu toi-même.
C'est vraiment un livre, mais c'est un livre en même temps qui me permet de sortir d'un certain nombre de codes et qui a une autre adresse aussi, qui a une adresse un peu différente.
Et ça, on est en 2023, fait que c'est possible de se créer un site web et de distribuer ces livres en ligne.
Tout à fait.
On est à une autre ère que quand les zines ont commencé aussi, il n'y avait pas Internet puis il y avait un réseau de correspondance. Tu passais une annonce ou au magasin de disques, tu mettais un flyer, puis comme si vous voulez des zines punk, écrivez à telle adresse, on va échanger. Tu sais, ça avait rapport avec... Ça s'inscrit toujours dans des communautés, je pense, le zine. Mais aussi, c'est drôle parce que Céline puis moi, tu sais, Céline, tes publications sont très... je pense que tu penses beaucoup à l'objet, puis c'est réfléchi. Puis moi, c'est souvent impulsif ou... Tu sais, ça m'intéresse au bout de qu'est-ce que tu fais. Puis, tu sais, je pense que nos idées... C'est ça peut... Il y a des gens qui sont puristes aussi, que ça les écœure des zines.
Je pense simplement que ce sont des publications qui ont différents publics et différentes fonctions.
Oui, mais c'est l'objet en tant que tel. Ouais. Mettons, ceux de Céline sont beaux. Le papier est beau. Moi, c'est lait. Je sais que c'est lait, mais je trouve ça cool de même.
C'est ça qu'on aime. Hein? C'est ça qu'on aime aussi.
C'est ça.
Mais le lait fait partie de son accessibilité aussi.
C'est ça, exactement. C'est aussi, ça. Moi, je ne vends pas un zine plus que 7$. Si je vends mon zine plus que 7$, je suis comme non. Ça ne marchera pas.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Tes zines sont super beaux.
Merci, Stéphane.
Et puis non, moi, je fais aussi des publications pour Exposine. Donc, fait 48 heures avant. Avec du papier récupéré, imprimé en photocopie ou en réseau.
Mais Céline, j'avais une question pour toi par rapport à ça, parce que je ne sais pas quelles étaient tes pratiques avant, mais c'est peut-être ce travail-là qui t'a conduit, par exemple, à avoir un atelier. Ce qui n'est pas nécessairement la chose qu'une écrivaine a, c'est-à-dire un atelier où tu fabriques ces objets, ces micro-publications.
Oui, c'est sûr que j'ai une pratique d'artiste en art visuel. Oui. Donc quand je dois penser à déployer le livre dans l'espace, souvent ça va passer aussi par un travail plus matériel, par des œuvres qui prennent plus de place, qu'il faut stocker. Donc il y a ça. Puis il y a aussi le fait que moi je travaille vraiment dans une logique de montage. Donc j'ai besoin de plusieurs tables où j'étale tout mon matériel sur des tables pour créer des liens entre image texte, entre texte, entre matière et texte. Donc oui, c'est assez. Je me retrouve dans une position très hybride moi-même, où je suis écrivaine et artiste en même temps.
Oui, tout à fait. Puis bon, c'est-à-dire, c'est des choses évidemment qui me parlent, mais quand je réfléchis, par exemple, à ce livre-là, c'est vraiment, je pense, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est un livre d'artiste. Et en fait, les deux principales, c'est toute une démarche que j'ai d'écriture en collaboration avec des artistes visuels, même si j'en suis une moi-même, j'ai jamais eu le désir, en fait, de franchir le pas de moto, de rentrer dans un travail visuel sur ma propre poésie, en fait. J'ai toujours voulu avoir une personne qui est mon interlocutrice, et puis je trouve ça très porteur et puis très utile. Mais parce que ce livre-là, je l'ai pris en charge, j'ai redécouvert avec beaucoup de joie, des joies vraiment très profondes, tout le plaisir du choix du papier. Je me suis reconnectée avec des artisans. Par exemple, la reliure est une reliure cousue, et presque plus personne ne fait ça professionnellement. C'est un artisan finalement qui est dans la ville de Québec qui l'a cousu, puisqu'il n'y avait pas vraiment de maison professionnelle capable de le faire à cette échelle-là à Montréal. Et donc on retrouve aussi toute la mémoire, en fait, de la fabrication de l'objet livre, qui fait partie pour moi de la démarche de création.
Peut-être, je ne sais pas, là tu parlais justement de collaboration avec au niveau du rapport texte-image, puis je me disais, Sarah, tu disais tout à l'heure, moi je ce que j'aime dans la micro-publication, c'est que je fais tout moi-même, et en même temps, en faisant tout soi-même, on est amené à beaucoup collaborer, non? Je me demandais si...
Ça dépend, en fait, parce que j'avais des publications collectives comme justement avec Fémicile ou Charisme Magique, on a invité plein de gens à participer. Puis, tu sais, c'est beaucoup d'aller-retour quand tu as 30 personnes dans un projet. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'aller-retour. Puis je pense que c'est ça. Moi, j'aime ça faire tout. J'aime ça avoir le contrôle sur... c'est un espace où j'ai le contrôle dans mes zines personnelles. Mais je trouve ça intéressant.
Et on croit que les personnes qui font les zines sont des anarchistes, mais en fait...
un peu.
Oui, le contrôle.
Non, mais ce que j'allais dire, par exemple, c'est qu'on peut faire un super bel objet, puis ça, c'est un plaisir. Sauf que plus t'investis dans ton zine, plus il coûte cher à faire, puis plus il va coûter cher, puis tu vas rien. Tu sais, c'est parce que, c'est ça, on peut pas... ça dépend c'est quoi nos moyens, puis c'est quoi les moyens de notre public. Parce que si tu le fais coudre, t'as un papier, tu sais, ça peut rapidement monter à 30-35 $ par copie si t'as beaucoup de pages.
Oui, tu sais, ça fait partie de ma démarche aussi, parce que comme quand j'ai écrit ce livre, en fait, ce livre porte, sur, pour en parler, c'est celui-là. J'ai montré le livre tout le monde, sauf moi. C'est un livre qui parle de la violence scolaire vécue par les enfants minoritaires dans des sociétés à majorité blanche, en fait. Et comme c'est un sujet précisément dont j'avais l'impression que personne ne voulait parler, je suis ravie que ça soit dans un objet qui soit particulièrement léché, tu vois? Donc, en fait, ce rapport-là est intéressant pour moi aussi.
OK. Puis t'en as fait combien de copies?
Écoute, j'ai pas eu froid aux yeux, j'en ai fait quand même 500.
500? Bravo.
Oui, oui.
On peut se le procurer comment, en fait?
En fait, c'est moi qui l'amène là où je passe. C'est pas distribué officiellement. Donc, on va en parler tout à l'heure, mais en fait, à la fin de cette conversation, surtout pour les gens qui partent avant la fin, il faut venir rencontrer toutes ces autrices à l'espace Zine, tout nouveau, tout beau du Salon du Livre de Montréal, où nous allons signer nos livres. Oui, c'était un vrai risque que je voulais prendre sur ce sujet-là, précisément parce que je sentais que cette conversation, on ne voulait pas tellement l'avoir. Voilà.
Ben, c'est ça que ça permet, l'auto-édition.
Mais pour revenir à Exposine, parce que j'avais envie de glisser ça tantôt, tu dis que c'est juste Exposine en ce moment comme la place, puis tu y penses beaucoup.
Il y en a d'autres.
Mais c'est ça. De plus en plus, pas qu'il y en a d'autres, là, mais qui émergent, puis des personnes, des organismes qui se rendent compte qu'en fait, un marché d'art, ça peut être vraiment complémentaire. Il y a un festival d'humour à Hochelaga qui s'appelle le Minifest. Puis là, ils font un festival d'artisanat, un marché d'artisanat, puis ils invitent aussi des personnes qui font des zines à venir. Tu sais, l'humour, là, ça n'a aucun rapport, là, mais ça permet de libérer peut-être qu'il y a des zines drôles, il va y avoir Adib Al-Khalidi qui vient de gagner un prix pour son livre sur un texte d'humour. Fait que peut-être que là, tu peux publier tes textes d'humour, c'est une possibilité du zine. Puis, non, mais c'est le fun que ça fasse des petits. Hein,
je comprends vraiment, mais personnellement, c'est comme si je pense que je suis attachée à cette communauté-là, puis il y a 300 personnes, puis il y en a 100... dont j'ai vraiment hâte de voir le travail à chaque année. Puis c'est, pour moi, c'est comme... Je m'en vais à la Mecque.
Ouais.
Genre, c'est
la plus grande foire en Amérique du Nord.
Non, mais c'est peut-être... C'est mal choisi comme comparaison.
Non.
Mais sinon, à Toronto, tu sais, des grosses foires aussi, je trouve que ça vaut plus la peine au sens où ça m'est arrivé d'aller dans des petits salons, justement, dont tu parles. OK, on va avoir un marché d'artisanat. Là, tu te prépares. Tu sais, c'est beaucoup de travail, là. Puis là, tu transportes tes affaires, puis t'es là, puis tout le monde s'en sac. Genre, sont là avec leur crème glacée. Ils checkent tes affaires, ils mettent leur café sur la table. T'es comme, non, s'il vous plaît, mettez pas votre... Tu sais, je pense que si les gens sont pas... Je préfère exposer une...
Exposine, ça reste le best, là, par contre. Ça, oui, il n'y a pas...
Mais Hélène, alors, l'autre question qu'on pourrait poser, c'est comment vous vivez cette traversée du miroir de la maison d'édition au travail plus artisanal que toutes vous avez faites, finalement, et parfois pour le même livre, dans ton cas?
Pour moi, c'était une grosse, grosse surprise. Là, j'avais pas du tout prévu de rentrer dans le monde littéraire. Puis, en fait, quand j'ai fait le livre d'artiste, je l'ai fait en 130 exemplaires et c'était quand même un travail de 6 ans.
Oui.
Et il a été épuisé rapidement et je trouvais ça un peu difficile d'accepter ça. Et donc, j'ai contacté une maison d'édition pour leur proposer de retravailler le livre dans une version littéraire. Donc, c'est ce qui est très intéressant. C'est déjà, c'est un travail complètement différent. On travaille avec une figure d'autorité qui est l'éditrice ou l'éditeur. On a un accompagnement différent. Et puis, la diffusion, elle est différente. C'est que moi, c'est un livre qui raconte l'histoire de mon père, la mort de mon père, sa disparition. Sous forme de livre d'artiste, je pouvais à peu près connaître tous les gens qui s'étaient procuré le livre. Et là, c'est une diffusion qui m'a échappé complètement. Et en même temps, dans cette perte de contrôle, il y a quelque chose de très agréable aussi parce que...
Oui, tu n'as plus toute la charge.
Oui, même au-delà de la charge de la distribution, là, que moi je déteste, mais aussi, en fait, je suis... j'ai l'impression que cette histoire-là, elle m'appartient plus du tout maintenant. Et donc, je me rappelle le livre d'artiste. Au début, on me demandait est-ce que ça a été thérapeutique d'écrire ce livre. Et j'étais là, non, pas du tout, non, non. Mais en fait, mais la diffusion du livre par une maison d'édition sans moi, ça a été thérapeutique parce que. Je pense qu'il y a aussi, je me suis rendu compte que c'est une histoire que plein d'autres personnes avaient vécue. Il y a plein d'autres gens qui avaient le même père que moi. Donc ça aussi, ça a été thérapeutique. Donc je pense sur la diffusion aussi, je ne m'attendais pas à cette différence-là entre micro-publication et édition commerciale.
Oui, ça ne m'étonne pas à un certain niveau parce qu'on a vraiment l'impression qu'avec ce travail d'usine ou du livre artisanal ou la micro-publication, chaque chose qui était déjà fixée redevient une question. Et donc, du coup, évidemment, on respire un peu mieux puisque tout n'est pas réglé, tout n'est pas décidé. Et donc la diffusion, micro-diffusion donc à 130 exemplaires du livre d'artiste, quand elle rentre dans une diffusion plus large, ça change aussi presque le propos et puis la nature même du livre.
Complètement.
Déjà
oui.
Matériellement, il y a quelques différences entre le livre et puis le livre d'art que tu avais fait et puis le livre publié.
Je ne sais pas si vous avez ressenti ce genre d'expérience ou pas du tout.
Est-ce que ça s'est joué pour vous sur le même livre ou c'est vraiment certains livres vous faites autopublication, micropublication, zine ou certains livres publiés comme un divorce entre les deux?
C'est que il y a la question de la démarche.
Oui.
Parce que je pense que ça part de la démarche. On parle beaucoup de la forme, on parle beaucoup de comment c'est distribué, mais aussi comme de choisir de « Ah, je le mets en livre maintenant ». C'est de choisir « Non, ce propos-là, c'est un zine que ça prend ». Parce que c'est ça que j'ai décidé en tant qu'artiste, en tant que m'exprimer. Et qu'il y a peut-être cette partie-là, fait que quand j'ai décidé quand un éditeur a bien voulu aussi accepter, on leur remercie de publier mes poèmes. Mais j'avais commencé déjà, je les avais mis en page, je les avais imprimés, je l'avais broché, ça s'appelait Poème triste. Mais il fallait que ça existe dans cette forme-là pour que je puisse me dire « Ah, ça peut être un zine, ça peut être un livre.
Oui. »
Je l'ai vu sous forme
de... Si le livre était dedans? Comme si le livre était...
Oui, ou la possibilité du livre.
Oui.
C'est vraiment... Je perçois ça comme deux objets différents à cause de la réception, à cause de la conception, à cause de la couverture est différente. Comme toutes ces petites choses-là, l'ordre est différent. J'ai eu une personne, Annie Goulet, qui m'a aidée à l'édition. Donc, c'est ça, à part comme... C'est moi qui publiais Poèmes tristes, puis là, c'est comme mes poèmes d'ado emo frustrés.
Comme le Gollum.
Oui, c'est ça, qu'il faut qu'il existe de cette manière-là, mais après ça, c'est de réfléchir, OK, bien là, c'est pas juste moi puis mes amis, puis ma démarche de moi, de ce que je veux parler, mais aussi, ah bien là, c'est vraiment le lectorat, puis cette espèce, cette chose-là en littérature, dans les cours de littérature, ce lectorat indéfini, puis qu'on réfléchit, qu'on ne crée pas en fonction d'eux, mais qui existe quand même, puis mais c'est, le zine, c'est peut-être j'ai pas le goût d'utiliser des tours, j'ai pas le goût d'utiliser autre chose, mais c'est un chemin qu'on emprunte pour peut-être se calmer les nerfs par rapport à ce que le livre apporte. Parce que moi, je le vois de même. Après ça, c'est possible que c'est pas pour tout le monde, mais moi, ça a vraiment fait que moi, je suis capable d'écrire comme plusieurs poèmes, puis quand je les mets ensemble, c'est pas dégueulasse. Puis c'est ça. Puis mais après ça, je l'ai publié, le recueil, puis j'ai eu la reconnaissance pour ça, puis tout. Mais maintenant, je fais un calendrier de l'avant avec des zines dedans parce que je pourrais jamais faire ça en édition. Mais j'ai besoin que ça existe, un calendrier de l'avant. Donc, c'est comme c'est des mondes qui des fois se parlent, des fois se contredisent, des fois se nourrissent l'un l'autre. Mais en ce moment, ils sont pas en chicane. Pour moi.
C'est habitable un peu des deux côtés. Mais je repense à tout ce qu'on disait parce que vraiment, pour moi, il y a aussi un élément d'urgence.
Ouais.
C'est-à-dire, quand tu parlais de la rapidité avec laquelle un zine peut se fabriquer quasiment sur le coin d'une table pour un public qui est déjà un peu dans la salle.
Ça veut pas dire que c'est pas réfléchi ou que c'est de
mauvaise qualité. Non, pas du tout.
C'est juste que ça, la permission est là, on peut le faire.
Oui, mais cette permission est très importante.
Oui, c'est ça.
C'est un peu cette permission qu'on avait peut-être un peu perdue de vue parce qu'on était un peu rentré dans l'écosystème. Mm-hmm. Nous tous avons fait des études littéraires, donc un peu cet écosystème, nous le connaissons
moi, non.
Un peu.
J'ai pas fait d'études littéraires.
Quand même.
Études hispaniques.
Il n'y avait pas de littérature là.
Ben oui, il y en avait. Voilà. Y en avait mais
donc, études littéraires.
Comparé à d'autres personnes qui ont fait des études en création littéraire, par exemple. Mais pour moi, ça a été vraiment fou de faire un objet de 352 pages. Parce que d'habitude, je pense que mon plus gros zine avait 32 pages.
Ben, j'en ai un, là.
Oui, c'est mon nouveau zine. C'est Kaël qui est dans l'assistance, qui a dessiné la couverture. Mais tu vois, lui, il est super beau parce que je suis allée au centre Sagami la semaine dernière. Puis là, tu as des personnes qui sont là pour t'aider à réaliser tes publications. Je trouve ça incroyable parce que plier, découper des pages, c'est très long.
Oui.
Là, il y avait deux personnes à mon service. Je capotais.
Et du coup, on les voit aussi. C'est à cet élément-là. On
les
voit, ce travail.
Et oui, on le voit. Il est super beau. Ouais. Je veux dire.
Non, moi, je veux dire le travail de découper, de plier.
Ah oui.
Tu y as accès aussi.
C'est-à-dire.
Est-ce qu'elles l'ont plié, découpé avec
elles
toi?
Ont des machines. Donc, le centre Sagami, c'est dédié à l'édition, aux publications et tout. Fait qu'ils ont des machines incroyables pour agrafer, trancher. Puis les personnes qui travaillent là sont des machines, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment bonnes et efficaces. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais oui, donc, faire un livre pour moi, j'avoue que moi aussi, j'avais peur de. Tu sais, j'étais bien dans mon microcosme d'exposine, puis je me disais, est-ce que monsieur et madame, les fameux monsieur et madame, tout le monde vont comprendre qu'est-ce que je fais, comment je travaille, mon humour, l'aspect cru de ma parole. Parce que dans le zine, pour moi, c'est lié aussi à l'intimité. Je veux écrire des trucs quand même très personnels, souvent. Fait que puis ça, j'étais comme à l'aise de le faire en 20-30 copies. Pour des gens que je connais, mais là, de me livrer de la même façon.
C'est combien d'exemplaires, ça, par exemple?
J'en ai fait 60. Mais c'est parce que ça coûtait moins cher si t'en faisais plus. Sinon, j'en aurais pas
la
fait
la même
60.
Logique, moi aussi.
Fait que c'est ça.
Oui.
Ouais.
Est-ce que j'ai trop de questions, en fait, en même temps. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'adresse précisément? C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez nécessairement, tu as un peu répondu tout à l'heure, par exemple, si on prend ta micro-publication en dehors de cette expérience de Le Drap Blanc, ta micro-publication, est-ce que tu as déjà en tête une adresse possible de ces œuvres-là? Comment elles circulent? Comment elles sont reçues?
Je pense pas du tout à la réception. Par contre, je pense tout le temps à la distribution. Parce que t'en parlais tout à l'heure, quand on fait de l'auto-édition, les stratégies de diffusion, elles reposent sur nous. Donc, il y a Exposine, il y a des foires, mais sinon, il faut aller démarcher toutes les librairies, demander, accepter que les librairies les prennent en consignation, perdre la moitié des ventes, parce que le libraire a aussi besoin de revenus. Et moi, je déteste faire ça. Je ne peux pas faire ça. Donc, j'essaye de penser à la stratégie de diffusion quand je fais le livre. Donc, ça peut être d'intégrer le livre à l'intérieur d'une exposition, ou ça peut être Exposine, ou ça peut être. Mais je vais toujours trouver des stratégies pour
ne pas t'en occuper.
Ou en tout cas pour ne pas avoir à aller démarcher les librairies.
Oui, oui, je comprends.
Mais sinon, une bonne stratégie, c'est aussi d'organiser un lancement. Nous, avec Fémicile, on organisait toujours un lancement, puis toutes les personnes qui avaient écrit dans la publication venaient lire, donc ça génère encore une fois un sentiment de communauté. Puis ça, c'est un aspect important de,
oui, je trouve aussi,
de la patente.
Oui, tout à fait.
Mais oui, les événements autour d'usine aussi, les discussions, les soirées de poésie, tout ça. Puis je trouve que, en tout cas, c'est une impression à moi, mais que les maisons d'édition s'en inspirent de plus en plus pour créer un sentiment de communauté, là, outre le lancement, mais toute cette idée-là de se rassembler autour pour en discuter, là. Mais, en
tout cas. Oui, je pense que les lancements jouent ce rôle de créer des communautés de créateurs-lecteurs presque, hein, parce que ça circule aussi. Les rôles sont plus facilement peut-être renversables à l'intérieur de cette dynamique-là. Effectivement, je suis d'accord. Et pas seulement en fait pour les événements. J'ai l'impression aussi que les maisons d'édition en viennent à s'inspirer ou intégrer plusieurs qualités de ces micro-publications, livres d'art ou zines, à l'intérieur de leur démarche. Et en ceci, ce n'est pas très surprenant parce que, en fait, la marge fonctionne comme ça. La marge signale toujours un possible qui est un peu à l'extérieur de tout ce qui est déjà bien balisé et normé. Mais à la fin, ce qui est balisé et normé se rend compte que pour évoluer, peut-être, il faudrait qu'ils puissent reprendre certains éléments.
Bien, c'est aussi d'aller chercher des publics parce qu'avec Fémicile, on publiait une sorte de poésie plus, contemporaine, pop, ses bords. C'était pas genre le nuage bleu du triangle sous... Il y a des mots qu'on comprend, puis des fois, c'est narratif, là, presque, qui sont publiés, puis l'engouement, c'est-à-dire, là, plus on faisait des lancements, les magazines se vendaient, puis je pense que les maisons d'édition étaient comme aussi, « Hey, il y a quelque chose, là, il y a un public, les jeunes femmes de 20 à 35 ils sont écrivent intéressées. » Cette chose-là. Non, mais tu sais, on aurait dit qu'il y a comme un déclic qui s'est fait, puis beaucoup de personnes qui ont participé... à notre magazine sont publiés aujourd'hui dans des maisons, je sais pas moi, tout le monde, là, Pascal Bérubé, Marie, Daphné, c'est comme... Ben, je sais pas s'il y a des gens ici dans la salle. Mais c'est comme tu disais, tu sais, des fois, en marge, on peut se permettre des choses. Oui. Puis là, les gens avec des moyens vont voir l'effet sans aucun frais, puis après ça, aller chercher...
C'est très banal, ce fonctionnement-là, en même temps. Hein?
Oui.
Mais à ce moment, la marge invente autre chose, toujours. Parce qu'il faut toujours pousser plus loin un peu les possibilités. Est-ce que vous avez des œuvres préférées en dehors de celles que vous fréquentez plus étroitement? Ah oui, question piège. J'ai la question méchante, je vous préviens.
Si j'ai pu me permettre, moi, j'ai un zine dont je voudrais parler. Parce que c'est un de mes préférés. Puis ça, pour moi, ça démontre beaucoup c'est quoi un zine. Parce que c'est aussi un événement. Un zine, c'est la rencontre, on en a parlé beaucoup, la conversation. C'est Christina Le Catastrophe, aussi connue sous le nom de Polyplotte. Polyplotte. Son zine, c'est sur sa sœur décédée, qui, en fait, il ne restait plus beaucoup de possessions matérielles, sauf une brosse à cheveux. Puis sa mère avait beaucoup de difficultés à se départir des possessions matérielles de la sœur décédée. Puis ça causait une frustration. Puis elle en parle dans toute le zine, ça s'appelle « Hers ». C'est en anglais. Donc, c'est écrit différemment. Là. Je pense que c'est E-H-E-R-S. Ça ressemble à Air Hers. Puis elle parle de cette brosse à cheveux-là, qu'elle l'a mis dans la salle de bain. Sa mère s'est brochée les cheveux et sans le savoir, elle a jeté les cheveux de sa sœur. Il y a comme l'aspect du rituel par rapport à ça, de jeter des remains. Mais quand je l'ai acheté, Christina se coupe les cheveux. Elle se coupe un bout de cheveux puis elle le met dans un petit sac qui accompagne le zine.
Il y a la seule performance aussi.
Il y a la performance, le rituel, justement. Puis elle m'a demandé aussi de filmer l'interaction. Fait que, tu sais, il reste comme un archive de ce moment-là. Puis moi, j'ai encore le zine. Puis pour moi, c'est la référence numéro un quand je pense à c'est quoi un zine. Mais c'est pas juste l'objet en tant que tel, mais c'est cette rencontre-là avec Christina qui me raconte l'histoire puis qui se coupe les cheveux. Puis je l'ai encore... Ça fait un peu fétichisme, mais je sais pas.
Non, il y a un aspect rituel intéressant,
oui,
en fait,
ça.
Qui rejoint l'aspect événementiel aussi, en fait, oui. Dont on parlait tout à l'heure. Oui. Sarah?
La question, c'est si on a des objets préférés, mais je trouve ça vraiment toujours plate de parler de mes zines préférées parce que je suis comme, hey, ça c'est bon, mais vous pourrez pas le trouver nulle part parce qu'il était en 22 copies
là-bas?
En 2012.
Ah non, c'est
peut-être
c'est
là-bas.
Épuisé.
Ouais non c'est ça. Ben en fait moi j'aime suivre les artistes que j'aime qui publient, c'est-à-dire des zines de Julie Delporte, Julie Doucet, de mes collègues. Je suis toujours intéressée à voir ce qu'elles font. Puis la personne qui m'a donné le goût de faire des zines, elle s'appelle Sofeel, fait que c'est S-O-F-E-E-L. Puis elle est souvent exposée. Ses zines sont encore faciles à trouver. J'aime beaucoup sa voix puis ses dessins. Puis c'est elle et Claudia Tremblay qui est une fille de Québec, mais qui fait plus de zine. Ça, c'était en 2010. Donc, mais c'est qu'on en a tellement. Je sais pas vous, mais moi, après les années, j'ai une bibliothèque de zine incroyable. Puis, je sais pas.
On peut consulter les zines aux archives d'Archives Montréal.
C'est vrai, ça.
Si jamais.
Ouais, ouais.
Céline?
Ah oui, alors moi aussi, la question, c'est comme le plat préféré, l'artiste préféré.
Lequel de tes enfants?
Et en plus, c'est ça, les fanzines, je pense à ma boîte de fanzines chez moi, puis là, je vais oublier les noms. Ça va être... Mais je pensais au zine que tu as fait, qui avait été un de mes coups de cœur une année à Exposine, qui était autrice ou...
C'est dinde ou autrice.
Dinde ou autrice.
J'étais justement vraiment frustrée d'une relation avec un éditeur professionnel. Puis j'ai fait un zine là-dessus, puis beaucoup d'autrices se sont reconnues dans ce que je décrivais.
J'espère qu'il est là-bas. Ça me...
Il n'est pas là-bas, mais je t'en enverrai une copie.
Merci.
D'ailleurs, si tout le monde veut des zines, ça se fait aussi écrire aux auteurs, aux autrices sur Instagram, puis dire « Salut, si jamais tu te fais réimprimer, pense à moi, je te l'envoie. » Tu sais, c'est quelque chose qui est possible, je pense.
Oui, ben oui.
Moi, c'est, je dois dire vraiment, c'est le livre d'art un peu qui retient mon attention. J'ai pas, je pose ma question et puis après, pendant que je la pose, je me dis, et moi, qu'est-ce que je vais dire? J'ai aucune idée. Il n'y a rien qui me passe par la tête pour l'instant. Mais des projets de livres d'art assez complexes, multimodaux, comme les, par exemple le livre que Sophie Kahl a fait à partir de son exposition « Prenez soin de vous », qui était elle-même beaucoup multidisciplinaire. J'ai trouvé ce livre-là vraiment, vraiment intéressant et fascinant. Ce n'est pas de l'auto-publication, mais l'intégration de tous ces objets de papier, de toutes ces lettres, de tous ces documents, comme si un peu le livre devenait une archive, en fait, de tout le projet. Il y avait une espèce d'autoréférence que je trouvais vraiment intéressante.
Sauf que c'est pas un zine.
Je sais bien. Les zines, tu es très puriste, en fait.
Quand même,
oui, oui, très puriste. Bon. Est-ce que vous avez des questions les unes pour les autres?
Ben moi, je savais pas que ton livre, c'était... Je savais pas que...
Le drap blanc?
Oui, que c'était un zine avant puis qu'il avait été adapté. Je trouve ça cool. C'est pas une question, mais ouais, je suis contente d'avoir appris ça sur toi aujourd'hui.
Et on peut le voir, je pense qu'il est à la Bibliothèque nationale du Québec dans les conditions spéciales. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'autodétruit. Parce que, oui...
Non, il ne s'autodétruit pas.
Vraiment. Mais, il s'autodétruit un peu quand même.
Mais oui, il y a des insertions de papier carbone à l'intérieur qui fait que, étant donné que c'est sur la sédimentation de la mémoire et l'effacement de la mémoire de mon père, quand les lecteurs et lectrices manipulent le livre, ils et elles vont déposer leurs propres traces dans le livre et donc effacer petit à petit le texte.
Bon, hein?
Donc, ouais. Mais j'aimerais ça faire un livre qui s'autodétruit.
C'est tellement fantastique. Moi, je pense, on me pose souvent la question par rapport à ce livre-là, au sujet des pages blanches, parce qu'il y en a vraiment plusieurs.
C'est pour prendre des notes?
On pourrait, mais je pense que ce sont des choses qui peuvent être doubles, parce que dans ce projet-là, il y a toujours eu prévu la parole et puis la création des enfants. Et donc... Moi, je me disais, ah oui, peut-être ils vont voir les pages blanches et puis ils auront envie d'ajouter leur poème ou leur dessin pour insérer leur propre histoire dans l'histoire qui est racontée. Mais en fait, plutôt non. Les enfants, ils comprennent en même temps l'autre intention qui était contradictoire complètement que j'avais, qui était de vraiment laisser des moments de silence à l'intérieur du livre. Je voulais vraiment qu'il y ait comme des blancs, des oublis peut-être, ou des moments d'impossibilité, ni d'image ni de parole dans le livre, que ça fasse partie du livre. Donc, je suis très contradictoire quand je dis ces deux choses en même temps, mais c'est vrai, il y avait les deux intentions.
Mais tu racontes ça, puis je pensais justement, on revient à la commercialisation, puis je pensais à un éditeur qui dirait, mais je ne vais pas payer des pages blanches, on va les lire, les pages blanches. Puis c'est vraiment ça, le zine, c'est que justement, il y a une fonction aux pages blanches.
Oui.
Ça vient d'une démarche, puis bien, si c'est dans la démarche, on a le coût qui vient avec.
On peut.
C'est le genre de choses qui est intégré dans la démarche, puis ce n'est pas une réflexion de, on va l'enlever parce que des coûts. Tu sais, il y a vraiment quelque chose qui reste proche de l'artiste, là, vraiment. Là.
Oui. Ouais. En tout cas, c'est des heures de plaisir pour tout le monde, je pense. On n'a pas fini d'explorer les possibilités de cette démarche. Et en fait, l'une après l'autre, vous avez vraiment mentionné chaque fois cette question des possibles. C'est comme si les possibles étaient ouverts par cet espace qui n'est ni dedans ni dehors, mais en relation finalement avec le livre. Et pour moi, par rapport à la création, c'est vraiment essentiel, en fait, qu'il y ait des espaces qui maintiennent un peu dans l'ordre du possible, des choses qui vont ou ne vont pas arriver, qui vont ou ne vont pas être distribuées, qui prendront des formes qu'on ne connaît pas encore. Moi, je pense que si on n'a pas ça, on n'est plus dans la création, vraiment.
Puis je ne sais pas si je peux apporter aussi...
Vas-y, je t'en prie.
C'est des nouveaux modes de lecture. Que ça,
oui.
Peut-être, ça inspire aussi les maisons d'édition, des modes de lecture comme laisser des traces dans le livre, tout ça. Mais mettons, quand on ouvre le livre en tant que tel, là, le zine Floraison d'André... j'ai oublié son nom de famille. Mais c'est un zine qu'on fait juste ouvrir, puis c'est comme un bouquet de fleurs. Puis
oui.
C'est pas une lecture de gauche à droite ou de droite à gauche, mais c'est ça, c'est justement... C'est quoi l'impression qui me reste de cet objet-là, qui peut être littéraire. Puis ça va au-delà de la mise en page. C'est vraiment la lecture en soi aussi.
Ouais. Et puis finalement aussi le caractère éphémère qui est maintenu, puisque voilà, la conservation ou la diffusion de masse n'est pas la première intention. Donc il y a une qualité éphémère aussi qui est assez intéressante, justement, pour penser à d'autres...
C'est un peu aussi comme pour les collectionneurs avec les cartes de hockey,
oui,
par exemple. Mais c'est vrai, parce que si t'es... Moi, je suis vraiment fan, des fois, de certains artistes. Fait que si je suis comme... OK, mon autrice de BD préférée a fait 50 copies de ce zine-là. Moi, j'en possède
une. C'est 50. C'est deux de 50. Oh là là!
Non, mais c'est vrai, il y a comme un aspect, je sais pas, là, un petit trip de j'ai un objet précieux.
Oui, oui, tout à fait.
Qui n'est pas accessible aux autres.
Oui, et puis c'est drôle, en fait, quand on réfléchit à la manière dont la littérature se fait et est distribuée, en fait, c'est comme si un champ qui était très, un petit peu dans le dehors marginal, rejoint finalement une forme de production restreinte et elle est deux à la fois très, très raffinée, très sophistiquée, très rare, mais en même temps très vulgaire, disponible. Et donc, ce livre-là joue dans ces deux espaces à la fois d'une manière très intéressante, qui peut-être nous rappelle que la littérature est une seule et même chose. Donc,
Est-ce que dans vos pratiques, vous pensez justement à la conservation ou est-ce que ça ne rentre pas en considération?
Bien, j'ai un zine qui est à peu près dans l'idée de s'auto-détruire un peu, mais c'est arrivé un peu par... Bien, pas par hasard, par erreur, mais j'ai imprimé un zine sur du papier à facture, avec le papier thermal.
Oui.
Puis, bien, avec le temps, je me suis rendu compte que bien, il s'efface comme n'importe quelle facture où ça jaunit, puis tout. Puis, c'est sur Notion of Self, ça s'appelle, puis c'est sur la notion de moi, puisque les autres savent de moi. Donc, le fait que ça disparaisse...
c'est parfait.
C'est ça, ça va aussi en même temps. Puis, c'est ça, je l'ai dit à personne, personne ne le sait. Fait que j'imagine mes amis, 5 ans plus tard, qui sont comme, oh my God, j'ai plus de zine, en fait. Mais c'est, en fait,
presque un mauvais tour.
Oui. Mais l'idée de la conservation de l'archivage,
oui,
ça peut être vraiment un spectre. Il y en a que c'est,
oui,
comme, je veux absolument pas que ce soit distribué, je veux pas que ce soit conservé, ils veulent pas que ce soit à la bibliothèque, ils veulent pas du tout ça. Et il y en a au contraire qui, justement, s'assurent de se garder une copie puis de la déposer avec un ISBN puis tout ça. Fait que c'est, ça fait encore partie de la démarche, là, vraiment,
oui,
de toutes et chacune.
Est-ce que tu as pensé à documenter, c'est une question de pure curiosité, est-ce que tu as pensé à documenter l'effacement, comme prendre des photos à différentes étapes?
Ah, ça, c'est bon. Oui, peut-être. Ouais. Je sais que j'ai une vidéo du poème en tant que tel, mais peut-être que là où il en est rendu aujourd'hui...
Ce serait cool.
Ouais.
Moi, je garde des copies originales dans des... C'est-à-dire parce que je colle à la main. Là, c'est très old school, mon affaire. Donc, c'est tout collé, découpé, puis j'en fais une photocopie noir et blanc facile à photocopier après. Puis ça devient comme mon modèle recto verso. Puis le truc original, il est rangé, puis c'est la photocopie que je photocopie. Mais je fais ça de façon tellement, comme j'ai dit, random, qu'il y a des trucs que je sais plus sont où. Puis je suis pas du genre... Il y a des gens qui réimpriment toutes leurs zines de toutes les années, puis à Exposine, ils ont des copies de tout, mais moi, souvent, non. Celui-là, il est fini. T'es chanceux si t'en as encore une copie. Mais peut-être que je vais le regretter plus tard, je sais pas.
Ça fait partie.
Et toi, est-ce que tu gardes comme tu as un exemplaire complet de...
Non, ça dépend. J'essaye de plus en plus. Je pense que les premières années, je pensais pas du tout à ça. Là, je pensais à avoir assez de copies pour Exposine. Puis, si j'arrivais à tout écouler, c'était génial, en fait. Je pensais pas en garder une copie. Puis, j'ai un peu de regrets sur certains livrets, certains fanzines. Donc, j'ai même pas gardé un exemplaire pour moi. Donc, maintenant, j'essaye d'être un peu plus systématique, puis de garder peut-être 2 exemplaires, d'en déposer une fois de temps en temps à la Bibliothèque nationale.
Je pense que ça vient avec l'idée, tu sais, là, on a toutes des publications dans les maisons d'édition, mais au moment où j'ai commencé, j'aurais jamais imaginé être publiée un jour, tu sais, c'est-à-dire que moi, je faisais des zines, mais je me percevais pas comme une autrice, je me percevais pas comme une artiste, c'était quelque chose que je faisais par besoin, par nécessité, pour le fun dans le contexte. Fait que, tu sais, si j'avais su, peut-être que j'aurais fait plus attention à mes publications, mais je m'attendais pas à ce qu'on...
Ça fait partie du jeu un peu, non, aussi?
Je sais pas. Ouais.
Mais oui, puis c'est aux autres à retrouver tes traces, là, ils vont...
Oui, oui, vous, archivistes. Ouais. Donc, on doit arrêter la discussion, malheureusement. On aurait sans doute 10 000 autres choses à discuter. J'ai l'impression que c'est passé très vite. Donc, je vous remercie vraiment très chaleureusement d'avoir discuté avec moi.
Merci.
Et puis, j'invite le public à nous suivre, en fait, parce que immédiatement, applaudissez-les, bien sûr, excusez-moi. Et j'invite vraiment le public à nous suivre, puisque nous sommes toutes en période de dédicace à l'Espace Zine. Tout de suite après notre départ de cette estrade. Voilà.
Et alors moi, je fais un peu le mouton noir. Hein. Je vais sur le stand du Cartanier et je vous rejoins après à l'espace Zine.
J'avoue que mon plus récent livre n'est pas à l'espace Zine, il est chez Hachette. Ça s'appelle « Bijoux de banlieue ». Fait que je vais pas être là, mais allez-y, je t'en dédicace dimanche de 10h30 à 11h30. Merci d'avoir écouté la discussion.
Merci beaucoup.
Merci.
Les livres ont le pouvoir de changer notre trajectoire.